Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui a instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus le Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Et nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi. Pourquoi Saint Pidis? Mais parce qu'il a fait un catéchisme, un grand catéchisme. Et Jean-Paul II, mais parce qu'il a fait le catéchisme de l'Église catholique de 1992, qui est aussi un bijou. Vous voyez, ce catéchisme a stabilisé l'enseignement de la foi. Et le pape Benoît XVI en a fait un compendium, c'est-à-dire un résumé par question-réponse. Mais dans un premier temps, avant de nous aventurer dans le catéchisme de l'Église catholique de 92, qui est beaucoup plus littéraire, beaucoup plus difficile d'interprétation parfois, dans le sens où c'est moins les mots sont moins directs. Je vais donc partir de catéchismes plus anciens et qui nous disent les choses d'une manière très simple. Donc en utilisant le catéchisme à l'usage des diocèses de France du chanoine Quinet, je choisis une très grande précision dans les termes, avec comme soutien le catéchisme du Père Jean de Jésus est vivant aux éditions Teki, qui est un catéchisme de 1985 pour les CM2, n'est-ce pas, voire niveau 6e. Donc maintenant, comme j'enregistre, je ne ferai pas de remarques désobligeantes sur les uns ou les autres. Et donc, ces catéchismes du chanoine Quinet, Quinet, et le catéchisme de l'Église catholique de 1992, et le compendium. Et tout d'abord, aujourd'hui, donc, nous allons avoir différentes leçons qui seront fondées sur le « Je crois en Dieu », sur les vertus cardinales et sur les vertus théologales et sur l'histoire sainte. Donc l'histoire sainte sera au tout début du « Je crois en Dieu ». Et quand nous aurons vu le « Je crois en Dieu », nous irons aux vertus, c'est-à-dire à la morale. Il faut d'abord savoir qui nous croyons en quelque sorte, et qu'est-ce que nous croyons, et ensuite qu'est-ce qu'il nous dit, et comment agir suivant ce que nous dit celui en qui nous croyons. Alors, tout d'abord, la première leçon pour moi, c'est de vous dire l'existence de Dieu. Les petits catéchismes du cardinal Richard de 1895 nous dit qu'est-ce que Dieu? Vous voyez, c'est une question de curiosité. Ce n'est même pas qui est Dieu, on va dire qu'est-ce que Dieu. Pourquoi? Mais parce que on part de la personne qui se pose des questions et qui n'a pas forcément la foi au début. Voyez. On est dans une démarche de conviction, d'apologétique, de démonstration. Ensuite, comme disait Sainte Bernadette à Lourdes, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire. Donc en fait, dans ce catéchisme pour tous, très simple, je vous dirai des choses, je vais vous asséner des vérités. Et tant pis. Vous voyez, ce n'est pas un catéchisme vraiment dialogué. Toutefois, si vous avez quand même des questions, il faut essayer de m'arrêter. Ce qui est aussi facile que d'arrêter un TGV en pleine course, mais vous pouvez toujours essayer. Voilà. Ça vous arrachera une main, mais vous avez l'autre. Donc, qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un pur esprit, éternel, infiniment parfait, créateur du ciel et de la terre, et souverain Seigneur de toutes choses. Alors ça, Dieu est un pur esprit, éternel, infiniment parfait. Donc, il est pur esprit, il est esprit. Il est éternel, il est parfait, et alors après, il est créateur du ciel et de la terre, et souverain Seigneur de toutes choses. Qu'est-ce qu'un esprit ? Un esprit, c'est un être qui n'a pas de matière. Donc, il faut bien comprendre cela. C'est tout simple. Il faut s'arrêter à des définitions simples dans la vie. Dieu est un esprit, et un esprit, c'est un être qui n'a pas de matière. Alors, le fait qu'il n'ait pas de matière et qu'il soit esprit, est-ce particulier à Dieu ? Non. Il y a d'autres esprits qui n'ont pas de matière. On les appelle des anges. Mais en fait, leur genre d'être, c'est d'être des esprits. Alors eux, quelle est la différence avec Dieu ? Ce sont des êtres qui existent et qui n'ont pas de corps, pas d'atomes, pas de matière. Et quelle est la différence alors ? Ce sont de purs esprits. Il y a d'autres esprits. C'est l'âme humaine. L'âme humaine est un esprit. Elle n'a pas de matière. C'est un principe de pensée et de volonté, comme Dieu, comme les anges et les âmes. Oui ?
Comment la matière a été créée alors ? À partir de quoi ?
À partir de rien. Donc, c'est très important et c'est difficile à imaginer. La matière a quelque chose de faible, mais nous allons le voir dans un troisième temps. Deuxième temps, il existe des esprits. Alors, quelle est la particularité de Dieu ? Mais c'est qu'il est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire être éternel ? Éternel, ça veut dire avoir toujours existé. En fait, il n'y a que Dieu qui soit éternel. Et donc, c'est par un abus de langage qu'on dit qu'on parle de la vie éternelle. On partage la vie éternelle de Dieu. Mais nous, nous entrons dans la vie de Dieu, qui est éternelle. Mais notre vie n'était pas éternelle. Pourquoi ? Parce qu'elle a commencé. Le propre de celui qui est éternel, c'est qu'il n'a pas commencé, qu'il a toujours existé. Et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition juive, pour ne pas prononcer le mot de Dieu, parce qu'il est tellement béni, il est tellement puissant, qu'on n'ose pas le prononcer, eh bien on dit l'Éternel, par exemple, ou le Seigneur, Adonai, l'Éternel. Et c'est bon, et c'est non pas, c'est comment dire, c'est une très belle manière de d'appeler Dieu. Alors nous, c'est par abus de langage qu'on va parler d'éternité pour nous, parce qu'on a commencé d'être. Les anges sont de purs esprits, mais ils ne sont pas éternels. Mais alors ils sont, par rapport au temps, ils sont immortels. Pourquoi ? Ils se sont des purs esprits. Mais pour, mortels, c'est-à-dire, pourquoi ? Ils n'ont pas de corps. Donc ils sont immortels par nature. Alors nous, notre âme, elle est quoi ? Eh bien, elle est immortelle au sens que Dieu nous a révélé qu'elle ne sera jamais anéantie. Dans son principe, un être immatériel comme est l'âme est immortel parce qu'elle ne peut pas s'abîmer, se décomposer. Il est difficile d'imaginer ce que c'est qu'un esprit. Nous, il est beaucoup plus facile d'imaginer la mort. Parce qu'on a vu des morts, parce qu'on a vu des animaux morts, des insectes morts. On a vu des êtres qui bougent, qui sont vivants, et qui puis qui ne bougent plus, et qui sont morts. Et ça, ça nous étonne. Et nous, qui sommes des êtres avec un esprit, nous avons l'intelligence et la volonté. Et ce qui nous étonne, c'est qu'on trouve chez les animaux des traits qui ressemblent à de l'intelligence, mais qui ne sont pas de l'intelligence. Alors qu'est-ce que l'intelligence ? Qu'est-ce que l'esprit ? Puisque maintenant j'ai dit que Dieu est un pur esprit, les anges sont des purs esprits, nous sommes, l'âme est un pur esprit, mais unie à un corps dans une nature complète. L'homme est un animal raisonnable. Il a un corps matériel animé par un esprit. Cet esprit qui l'anime, on l'appelle âme, au sens d'animation. Il fait bouger le corps. C'est la raison pour laquelle, au risque de vous choquer et d'aller, non pas aller contre, mais vous révéler la simplification du catéchisme de la miche de pain, je vais vous choquer. Les plantes, les microbes, les animaux ont une âme, mais qui n'est un principe de mouvement. Et ça, en philosophie, voyez-vous, il y a plusieurs écoles, mais l'école, comment dire, thomiste, l'a toujours emporté. Et actuellement, nous sommes dans une très grande fusion, une confusion philosophique et théologique. Mais moi, je vous dis l'enseignement commun de l'Église. L'âme humaine a cette particularité qu'elle est un esprit, c'est-à-dire qu'elle existe par elle-même. Tandis que l'âme du microbe, l'âme de la plante, l'âme de la cellule de plante, l'âme de la bactérie, l'âme du chat, l'âme du chien, l'âme du coléoptère, de la coccinelle, du ver de terre, est un principe immatériel. C'est pour ça qu'on peut aussi l'appeler âme, mais il n'a pas d'acte abstrait, intelligent. Et là donc je reviens dans un second temps sur la définition du mot esprit. C'est un être qui n'a pas de matière, mais c'est surtout un être qui comprend, qui lit à l'intérieur, interlegere, qui est intelligent et qui veut. Il peut connaître. Et qu'est-ce qu'on connaît ? Le réel, ce qui est vrai et ce qui existe. L'objet de l'intelligence, c'est le vrai. Et l'appétit qui naît de l'objet compris par l'intelligence, saisi par l'intelligence, comprendre, c'est prendre. C'est la volonté. Eh bien, un être, un esprit est un être immatériel, il n'a pas de corps, qui est intelligent et volontaire. Dieu est un esprit intelligent et volontaire. Les anges sont des esprits intelligents et volontaires. Les âmes humaines sont des esprits intelligents et volontaires. La différence, Dieu a toujours existé. Les anges ont été créés à un moment. Et les hommes ont été créés à un autre moment. Oui.
L'univers a été créé à quel moment? Avant, après la...
Eh bien, je vais vous le dire. Donc, déjà, il faut remonter et se dire, donc, si l'esprit, c'est un être intelligent et volontaire, les animaux, eux, ont une participation de compréhension qui n'est pas l'abstraction. Abstraire, c'est savoir que l'on sait. C'est réfléchir. C'est se fléchir sur un objet et réfléchir, c'est se regarder en train de regarder l'objet, comprendre qu'on regarde un objet. Quand un chien voit un autre chien, son instinct s'éveille, il renifle de tous les côtés. Si c'est un autre chien, il aboie. Si c'est une chienne, il essaye de sentir si elle est féconde. Mais, si vous voulez... Il n'a pas le concept de chien. Il ne dit pas « c'est un chien ». Son âme a été informée par Dieu pour se diriger vers cette image. Il a, si vous voulez, ce qu'on appelle l'estimative en philosophie, c'est-à-dire qu'il est dans l'instinct à tout moment. L'araignée ne se dit pas un matin « tiens, si je veux manger... » Étant donné que j'ai un abdomen qui est plein de soie et de glu, si je faisais une toile, non. C'est un être supérieur qui lui a créé son abdomen plein de glu, plein de soie. Et avec ses pattes arrière, avec une dextérité extraordinaire, elle vous fait une toile pour chaque espèce. Et ça, voyez-vous, il faut savoir ce qu'on fait. Aucun homme n'a créé les araignées. Aucun homme n'a créé les hirondelles qui vont vous faire un nid en torchis, avec de la boue, avec des morceaux de paille, d'herbe, de séché. Et ça vous fait un nid qui adhère par le dessous. L'œuf est pondu dedans. Il se développe dedans, il n'a pas vu faire le nid et l'hirondelle fera le même nid. Les araignées se partent dans tous les coins lorsqu'elles éclosent et elles feront les mêmes toiles. Ça trahit une intelligence. Et Dieu, lorsqu'il a créé l'univers, il a créé de la matière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, le Big Bang, chiche si ça les amuse. Une grosse masse de matière. Tellement dense, tellement intense que c'est le premier trou noir, n'est-ce pas? Mais bon, ça a explosé. Et la matière s'est diffusée. Cette matière était dans une agitation extraordinaire. Les neutrons, les protons, les électrons étaient dans une agitation telle que ce fut la lumière. Il y a eu de la lumière. Dans cette première matière, ça a été de la lumière. Vous voyez, les sept jours de la création sont sept temps. Le premier temps, c'est la matière. Et la matière fut créée par Dieu. Au premier jour, Dieu créa la lumière. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, cette création est assez impressionnante parce que nous avons, je crois, environ 200 milliards de galaxies, ce qui représente 200 milliards de soleils, et avec peut-être même plusieurs soleils. Dans chaque galaxie, vous avez un certain nombre de planètes. de soleils et de planètes. Ça fait une quantité invraisemblable de matière. Dieu a créé une quantité invraisemblable de carbone, de fer, de cuivre, d'or, d'oxygène, d'hydrogène, d'ammoniac, d'uranium, une quantité d'atomes qui sont en fusion, qui explosent, c'est merveilleux. C'est une quantité invraisemblable. Et quand vous avez un soleil qui explose et que une partie de son noyau se refroidit, ben ça vous fait une planète, semble-t-il. Mais voyez-vous, quand on se dit que quel est cet ingénieur qui crée une telle quantité de matière et pourquoi ? Eh bien, pour la loi de la gravité et pour la beauté de la loi de la gravité, pour la beauté des lois de la polarisation de la matière et des atomes. Vous savez, la peau est polarisée. Et il y a l'électricité dans notre peau, l'électricité dans notre cœur, et il y a l'électricité dans la matière, qui ne demande qu'à être dans un flux. Tous les électrons du cuivre se mobilisent avec une très grande facilité lorsque vous avez un flux électrique. Mais l'électricité statique, c'est tout simplement cette matière inerte qui ne bouge que par magnétisme et par loi de gravité. C'est merveilleux. Rien que ça devrait suffire à nous donner la foi. Parce que c'est trop beau, c'est trop bien organisé. Voyez-vous, Einstein croyait en l'existence de Dieu parce qu'il voyait ce tissu de l'univers avec des forces extraordinaires, toutes ces masses qui s'attirent les unes les autres, ce sont des lois d'une précision d'horloge. Ça a l'air d'être chaotique, mais ce n'est pas du tout chaotique. La création matérielle n'est pas du tout chaotique. Elle est magnifique. Vous savez, quand on a découvert les anneaux de Saturne, mais c'est tout simplement une planète qui a été prise dans le champ gravitationnel de Saturne, qui est une planète dont le cœur est encore très chaud, qui crache avec des volcans, sauf que la surface de la planète, c'est de l'eau, gelée. Trop loin du soleil, il n'y a pas de réchauffement par rapport au noyau, tellement c'est loin. Mais quand le noyau provoque une explosion, vous avez des icebergs énormes, des morceaux de glaçons monstrueux qui sont projetés. Et tous ces glaçons, n'est-ce pas, dont certains peuvent représenter des montagnes terrestres, se déplace tout autour de Saturne. Il a fallu attendre ces quelques années pour qu'une sonde passe à côté de Saturne et s'aperçoive que c'est de l'eau, c'est pas des pierres. Et c'est pour ça qu'on voit les anneaux de Saturne de si loin, parce qu'ils reflètent la lumière du soleil, puisque c'est de la glace. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est délirant, c'est fou, c'est beau. Et tout ça, c'est de la gravité. Vous avez les différents anneaux de Saturne, c'est parce que vous avez des morceaux de glace plus ou moins gros et plus ou moins attirés par le noyau de Saturne. C'est la loi de la gravité. Mais nous, on utilise la loi de la gravité pour avoir des GPS et des satellites des télécommunications. Alors je reviens à Dieu. Vous voyez, donc on est vraiment dans un catéchisme très simple d'apologétique, de défense par tout ce qu'on sait par ailleurs sur la nature de Dieu et la nature de notre foi. Dieu est un pur esprit intelligent qui a créé la matière. Toutes les lois physiques, il les a créées. Il a créé des esprits. Mais il a créé les esprits avant la matière. Les anges sont des êtres qui ont été créés avant le monde visible. Et par définition, le monde invisible, il n'est pas visible. C'est bête à dire, mais... Vous voyez, dans le grand « Je crois en Dieu » de Nicée-Constantinople, on dit « Invisibilium et visibilium ». Et « Invisibilium », c'est les anges, figurez-vous. dans le « Je crois en Dieu », Nicée-Constantinople, je ne sais pas si vous le saviez, mais « Invisibilium », ça veut dire les choses invisibles, c'est les anges. C'est de la philosophie presque, hein, en plein article de foi. Alors qu'est-ce que c'est? Oui. Des milliards de milliards. Des milliards de milliards. Dieu a créé des anges dans une quantité incroyable. Et nous, les hommes, on est là, on est très poussifs. On dit, mais le pasteur Malthus a pas raison, il ne faut pas beaucoup d'hommes, on va crever de faim. Tout ça, faites vos familles, ayez vos enfants et vous verrez bien. La fin du monde et la haine humaine et le péché humain arrêtera la vie terrestre avant qu'on soit trop nombreux sur terre pour manger. Ça, c'est pas un article de foi, mais c'est une conviction personnelle. Vivons honnêtement, ayons nos familles et on verra plus tard. Oh, mais vous êtes complètement inconscient, mon père. Il faut avoir une paternité responsable. Il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants. Ben, Mère Teresa, voyez-vous, elle était en Inde. Il y a des enfants partout. Elle était contre l'avortement et la contraception. Elle dit, si vous ne voulez pas de vos enfants, donnez-les-moi. Et j'en ferai des chrétiens, j'en ferai des gens heureux. Ils feront le bien, ils seront heureux. Eh bien, voyez-vous, les anges, eux, sont extrêmement nombreux. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vie de Dieu et de la vie d'un ange. Puisque je vous ai dit que les esprits sont des êtres qui pensent et qui veulent. Alors, deuxième question du catéchisme de 1895. Donc, qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un pur esprit éternel, infiniment parfait, créateur du ciel et de la terre, et souverain seigneur de toutes choses. Pourquoi dites-vous que Dieu est un pur esprit ? C'est une belle question de l'époque. Je dis que Dieu est un pur esprit parce qu'il n'a pas de corps et qu'il ne peut être vu de nos yeux ni touché de nos mains. C'est le cardinal Richard, c'est pas moi. Je viens de vous développer quelque chose qui est dans un catéchisme. Chanoine Quinet. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un pur esprit, éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. C'est plus simple. L'autre, c'était créateur du ciel et de la terre et souverain seigneur de toutes choses. Pourquoi êtes-vous certain qu'il y a un Dieu ? Donc là, il n'explicite pas ce qui est dans un mini catéchisme. Ils vont tout de suite à l'existence de Dieu. Je suis certain qu'il y a un Dieu parce que toutes les créatures prouvent son existence. Les créatures prouvent que Dieu existe parce qu'elles n'ont pas pu se faire toutes seules. Et la raison nous dit que s'il a fallu un ouvrier pour bâtir une maison, il a fallu un créateur pour faire de rien le ciel et la terre. Il a fallu un pâtissier pour faire le gâteau qu'on a devant nous. Il a fallu un horloger pour faire l'horloge, disait Voltaire qui détestait Dieu. Mais on va arriver au hasard, mais pas tout de suite. Je reprends. Je dis que Dieu est un pur esprit parce qu'il n'a pas de corps et qu'il ne peut être vu ni de nos yeux, ni touché de nos mains. Pourquoi dites-vous que Dieu est éternel ? Je dis que Dieu est éternel parce qu'il a toujours été, qu'il n'a point eu de commencement et qu'il n'aura jamais de fin. C'est l'éternel. Vous voyez ? C'est très très beau. Alors, en fait, c'est dans la deuxième leçon du chanoine Quinet. Je dis que Dieu est un pur esprit parce qu'il n'a pas de corps et qu'on ne peut ni le voir ni le toucher. C'est la même chose. Pourquoi dites-vous que Dieu est éternel ? Je dis que Dieu est éternel parce qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours. C'est la même chose. Pourquoi dites-vous que Dieu est infiniment parfait ? Je dis que Dieu est infiniment parfait parce qu'il a toutes les perfections et que ses perfections sont sans limite. Pourquoi dites-vous que Dieu est créateur et maître de toutes choses ? Je dis que Dieu est créateur et maître de toutes choses parce qu'il a fait de rien tout ce qui existe et que tout lui appartient. Qu'est-ce que nous dit le catéchisme de 1895 que je n'ai pas perdu depuis 15 ans ? Avant de dire « Qu'entendez-vous en disant que Dieu est le créateur du ciel et de la terre ?» il y a deux autres questions très importantes. Mais je donne la réponse. En disant que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, j'entends que Dieu a fait de rien le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme. Mais les deux petites questions avant, que dit pas le chanoine Quinet, c'est « Où est Dieu ?» C'est génial, ça. Vous vous rendez compte ? L'audace. Dieu est partout. Au ciel, sur la terre et en tout lieu. Mais ça, vous voyez, ça fait la foi de milliards, de millions d'enfants. Dieu est partout, au ciel, sur la terre et en tout lieu. C'est ce qu'on appelle l'ubiquité de Dieu. Ubi, c'est où, et qui, c'est où qu'il soit. Il est partout. La bilocation, c'est d'être à deux endroits en même temps. C'est réservé à des personnes à qui le bon Dieu fait ce coup-là. C'est l'âme d'un côté, le corps ne se décomposant pas de l'autre. Le saint Padre Pio a vécu des bilocations. Mais ça, c'est très particulier. Saint Paul a sans doute vécu des bilocations puisqu'il dit « Était-ce dans mon corps, sans mon corps, je ne sais, Dieu le sait, mais j'ai entendu et vu des choses qu'il ne m'est pas permis de répéter. » Au troisième ciel, je crois. Il dit. Dieu voit-il tout ? Oui. Dieu voit tout ensemble. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que l'intelligence de Dieu saisit tout ce qui existe. Ce qui a existé, ce qui existe et ce qui existera parce que Dieu est en dehors du temps. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à saisir pour nous. Tout en étant libre, Dieu sait ce que nous allons décider dans l'avenir. Alors, on va dire, donc il nous le fait décider. Nous sommes des marionnettes. Non, c'est pas parce que Dieu sait ce que vous allez faire qu'il vous le fait faire. Il y a le mystère de notre liberté. Dieu voit tout ensemble, le passé, le présent, l'avenir et jusqu'à nos plus secrètes pensées. Rien ne lui échappe. Mais cela faisait peur aux païens, car les païens croyaient en l'existence du Tout-Puissant. Et ils étaient suffisamment intelligents pour savoir que Dieu est parfait et qu'il ne peut pas ne pas savoir certaines choses. Et donc, ils avaient peur de Dieu. Mais si le regard et la connaissance de Dieu est pour nous aimer, alors c'est différent. Si la constante volonté de Dieu est notre bonheur, le fait qu'il sache tout n'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait qu'il sache tout n'est pas très grave pour nous. Alors, pourquoi dites-vous que Dieu est le souverain Seigneur de toutes choses ? Je dis que Dieu est le souverain Seigneur de toutes choses parce qu'il est le maître de tout et que rien n'arrive en ce monde sans son ordre ou sans sa permission. C'est de la très haute révélation et de très haute théologie, mais c'est vrai aussi par une recherche naturelle et raisonnable. On n'est pas encore dans le surnaturel et dans le révélé. On est encore dans des vérités, des fundamenta fidei, des fondements de la foi. Pourquoi ? Eh bien parce que, voyez-vous, cette puissance divine, n'a pas de limite. Alors, il faut que je vous parle
donc maintenant de la vie intime de Dieu et qui est liée avec la vie des anges. Et là, je vais par contre aller vers le chanoine Quinet parce que dans le catéchisme réduit, il ne parle pas en détail de cela. Quelles sont les créatures les plus parfaites ? On va maintenant revenir à ce que Dieu a créé pour ensuite revenir à Dieu. Les créatures les plus parfaites sont les anges et les hommes. Qu'est-ce que les anges ? Les anges sont des esprits que Dieu a créés pour l'adorer et le servir. Là, pour le coup, du coup, on sait pourquoi Dieu a créé les autres esprits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Explication du catéchisme à l'usage des diocèses de France de 1939 de Monseigneur Audelan, évêque de Blois, et du chanoine Eugène Duplessis, chapitre de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que les anges ? Les anges sont de purs esprits que Dieu a créés pour sa gloire et pour son service. Explication. Comme Dieu, les anges sont de purs esprits. C'est bien ce que je vous ai dit au début. Hein ? C'est-à-dire des intelligences non unies à des corps. Vous voyez que j'invente rien. Hein ? J'aime dire ce que l'Église a toujours dit. C'est un plaisir. Notre âme, au contraire, est bien un esprit. Je lis en ce moment, c'est extraordinaire, non ? Mais unis à un corps. Les anges sont donc, par leur nature, les créatures les plus parfaites, celles qui ressemblent plus au Créateur. Qu'est-ce à dire ? Le Créateur est une intelligence éternelle. Dieu a créé les anges pour sa gloire comme tout ce qu'il a créé. Quand il crée les étoiles et les planètes, c'est pour qu'on admire sa puissance. Quand il crée les fleurs, c'est pour qu'on admire sa puissance. Quand il crée les coléoptères, c'est pour qu'on admire sa puissance. Quand il crée les fleurs, c'est pour qu'on admire sa fantaisie. Quand il crée les insectes les plus curieux, c'est pour qu'on admire sa fantaisie. On devrait rentrer en extase en regardant une araignée, en regardant une tulipe, un lys, une coccinelle, une mante religieuse, une libellule. Saint François d'Assise entrait en extase en regardant le soleil, une plante, une fleur, une feuille, un arbre. Un vrai écologiste, lui. Mais il remontait tout de suite à Dieu. Il n'adorait pas Gaïa ou la déesse Terre. Non. Il remontait tout de suite à l'ingénieur fantaisiste qui est derrière tout ça. Alors, quelle est cette vie, cette intelligence ? Eh bien, Dieu est l'être. Il est l'objet de toute intelligence. Il est la vérité. Et il est tellement vrai que c'est un délice pour l'intelligence divine de se connaître de toute éternité. Dieu est infiniment heureux d'être la vérité et d'être l'être. Il est l'être, et il sait qu'il est l'être. Il comprend qu'il est l'être, sans raisonnement, en une seule pensée éternelle, en un seul acte d'intelligence. La seule pensée de Dieu, c'est Dieu. Je suis Dieu. Je suis parfait. Je suis l'être. Je suis la vérité. je suis beau, je suis très intelligent, je suis très puissant, je suis parfait, je suis heureux. Et Dieu aurait pu rester comme ça. Parce qu'il y a en Dieu tout ce que nous voyons développer autour de nous, mais dans un acte pur et une pensée pure. Et Dieu n'a pas besoin de créer pour jouir de cette réalité qui peut être dans la création. Et Dieu est tellement suffisant à lui-même, sans être égoïste, et tellement heureux qu'il aurait pu se contenter d'être. Ouais. Mais si vous voulez, le bonheur de Dieu est tellement puissant, éternel, infini, qu'il s'est dit, franchement, je vais le répandre, je vais le diffuser. Bonum diffusivum sui, le bien est diffusif de soi. Dieu est tellement heureux, tellement bon, tellement vrai, tellement beau, qu'il a créé. Mais voyez-vous, en lui-même, sa vie est belle et est suffisante. Alors vous allez me dire, la Trinité, ah oui, on peut en parler tout de suite. Et ça, c'est une audace personnelle, mais par rapport à une théologie classique, hein, j'espère ne pas être hérétique. C'est dans la vie divine, voyez, je vais prendre l'explication du catéchisme des diocèses de France. Qu'est-ce que le mystère de la Sainte Trinité ? Le mystère de la Sainte Trinité, est le mystère d'un seul Dieu. Mais pourquoi il n'y a qu'un seul Dieu? Mais parce qu'il n'y a qu'un seul Tout-Puissant, il n'y a qu'un seul parfait. S'il y a deux parfaits, c'est qu'il y en a un qui existe alors que l'autre ne le fait pas exister, donc il n'est pas parfait. Le propre de Dieu, c'est d'être éternel. Personne ne l'a fait exister. Il est l'être qui existe par lui-même. En latin, on parle de l'acéité de Dieu. Il est l'ens, l'étant, E-N-S, a, par, en a, ça veut dire par, en latin, c'est, soi. Il se voit, se, on comprend. En latin, ça ne se dit pas se, mais c'est, S-E. Il est l'ens, a-c, il est l'être qui existe par lui-même. Et tous les autres êtres, qui ne sont pas éternels et parfaits, sont des ens ab alio. Ils existent par un autre qui les a créés et fait exister. Nous sommes tous ab alio, par un autre. Et là, on peut mettre un A majuscule. Parce que du plus petit quartz, du plus petit proton, du plus petit électron, jusqu'à l'être le plus compliqué, jusqu'à l'âme, jusqu'au pur esprit le plus compliqué, ils n'existent pas par eux-mêmes. Ils ne se font pas exister. Ils sont des créatures. Ce sont des ens ab alio, par un autre. Eh bien, voyez-vous, Dieu, il est forcément unique. Parce que s'il y avait deux dieux, qui aurait la perfection de l'éternité ? Les deux, qui aurait la perfection d'être unique, d'avoir, vous voyez, il y aurait une concurrence entre les dieux. Et qui, si vous voulez, cette coéternité de plusieurs dieux, et là, si vous voulez, c'est la raison qui nous le dit autant que la révélation. Mais c'est une imperfection de ne pas être unique. Je vais me dire, mais non, depuis tout à l'heure, on dit que Dieu est un narcissique pervers, hein, fort et lourd, hein, n'est-ce pas ? Il se contemple, il se voit, il se comprend, il se trouve beau, et il est unique. Je suis le meilleur. Eh bien oui, Je vous le concède. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Trinité est un mot abstrait qui signifie un groupement étroit de trois choses ou de trois êtres. En raison du grand mystère qu'il nous rappelle, ce mot a pris en quelque sorte, dans le langage de l'Église, une signification concrète. Nous parlons de la Sainte Trinité comme nous parlons du Père et ou du Fils ou de l'Esprit Saint, et l'Église a institué la fête de la Sainte Trinité. Il faut remarquer, d'après ce que nous avons dit, que 1 et 3 ne s'appliquent pas à la même chose, ce qui serait absurde. 1 s'applique à Dieu et 3 s'applique à des relations en Dieu.